Alors, bonjour à tout le monde ce matin. Très content de terminer avec vous ce matin cette série qu'on a abordée depuis la fin du mois de juillet sur « Je me souviens 500 ans d'un évangile renouvelé ». Ce qu'on veut faire, c'est se réjouir d'il y a 500 ans de cela, cette année. Il est né quelque chose, un mouvement spirituel qu'on appelle la réforme qui nous a fait redécouvrir le message de l'évangile, le message de Jésus. Dans le texte qu'on vient de lire, plusieurs phrases sont assez éloquentes à propos de qui est Dieu. Il suffit d'un mot fort, d'un mot du Dieu fort pour détourner les coups de l'ennemi. Dieu parle et il agit par la même occasion. Il y aura toujours un héros à nos côtés qui lutte sans cesse pour nous. Ce grand libérateur, quel nom a-t-il? Celui de Jésus-Christ. Notre rempart, notre armure, une armure invincible. On a vu la semaine passée à quel point la personne de Jésus-Christ est tellement centrale dans notre salut qu'à la réforme, on a découvert vraiment de manière extrêmement riche et profonde à quel point le salut n'est pas quelque chose qui s'obtient par nos efforts et nos mérites, mais quelque chose qui s'obtient par la foi. C'est quelque chose qu'on le reçoit et on a vu au cours des dernières semaines, évidemment, quatre principes théologiques qui sont le fondement de tout ça, de la redécouverte du message de l'Évangile. On a vu que c'est par la foi, la grâce des Écritures et la personne de Jésus que la réforme s'est construite. Un message qui provient de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on a découvert il y a 500 ans de cela, que Martin Luther, en plongeant dans les Écritures, notamment dans l'Épître aux Romains, a redécouvert la richesse de la grâce de Dieu. À quel point le salut et le fait qu'il veut, Dieu veut se réconcilier avec l'être humain n'est pas un geste que l'être humain peut obtenir comme étant une récompense ou une note de bonne conduite sur terre. Non, cette bonne conduite-là, c'est Jésus-Christ qui l'a accomplie. Et c'est par la foi en l'œuvre et la personne de Jésus-Christ que Dieu prend la décision de nous imputer sa justice à lui, qui devient notre salut et que l'on peut vivre en paix avec lui. Alors, ce matin, on aborde un dernier principe théologique qui était très cher et très précieux pour les réformateurs, que ce soit Calvin, que ce soit Luther, John Knox, Zwingli. Ce principe-là était quelque chose qu'ils chérissaient de tout leur cœur. Et ce principe-là dit la chose suivante. « Soli Deo Gloria. » À Dieu seul la gloire. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Bien, ce qu'on veut dire, c'est qu'à travers les quatre dernières semaines, on a parlé du salut. On a parlé du salut qui est possible par la foi, par la grâce, par les Écritures, par la personne de Jésus, mais que Dieu, à travers tout ça, est l'artisan seul de notre salut et que nous n'avons aucune participation à y avoir. On ne peut pas contribuer à notre salut. C'est quelque chose qui revient à Dieu, à lui seul, l'honneur et la gloire. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, je vais inviter mon frère Luc, à bien vouloir un texte, nous lire un texte qui va nous donner un aperçu de la gloire de Dieu. Alors, Luc va nous lire un texte qui est tiré des Écritures, plus précisément du psaume 8. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole.
Merci. Donc, le passage biblique de ce matin, tiré, comme Miguel vient de le mentionner, du psaume 8, versets 1 à 10, dans l'édition second 21. Donc, le psaume 8, versets 1 à 10, édition Second 21. Au chef de cœur sur la guittite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les animaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur cette terre.
Merci Luc pour ce passage tiré d'un psaume. Jusqu'à maintenant, on avait surtout regardé des textes dans le Nouveau Testament. Je suis content ce matin de redécouvrir la réforme à travers un texte de l'Ancien Testament. Bien avant Jésus, un psaume qui révèle, qui nous parle de la grandeur de Dieu, qui nous parle d'un texte qui, d'une certaine manière, célèbre Dieu comme un être extraordinaire. Et si on voulait résumer le tout, voici comment qu'on pourrait, en une phrase ou deux, juste résumer ce qu'on vient de dire dans la parole, dans l'option 8, c'est que la gloire de Dieu est incomparable et exclusive à sa personne. Il n'y a que lui seul pour partager avec nous la grandeur de sa richesse au travers de la personne de son Fils, Jésus. Ce qu'on voit dans le psaume 8, c'est vraiment que lorsqu'on parle de Dieu, tout premièrement, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Sa grandeur, nous dépasse tellement qu'elle ne peut faire que deux choses, nous éblouir et nous émerveiller. Peut-être que vous vous êtes déjà contemplé un coucher de soleil sur le fleuve, contemplé les étoiles dans le ciel par une belle soirée d'été. On a tous déjà été impressionnés par la création de Dieu. Mais est-ce qu'on est impressionné par la grandeur de celui qui a créé ce contexte devant lequel souvent on s'extasie? Ici, ce que fait le psaume 8, c'est qu'il met simplement en valeur « Voici qui je suis. Voici qui je suis. Je suis un être de gloire. Je suis un être que rien ne peut se comparer à moi. Je ne tolère même aucun rival parce que la gloire est un mot tellement qui me caractérise qu'il doit être absolument exclusif à qui je suis. Il n'y a personne d'autre qui m'arrive à la cheville. » Et ce que le psaume 8 nous dit, d'une certaine manière, au sujet de la gloire de Dieu, premièrement, c'est que la gloire de Dieu est absolue. La gloire de Dieu est absolue, parfaite, et elle se révèle dans tout ce qui existe. Donc, on peut la voir, cette gloire-là. C'est ça qui est incroyable dans le psaume 8. Non seulement c'est quelque chose que le texte nous dit de Dieu, mais c'est quelque chose qui s'observe. C'est ainsi que commence et se termine le psaume 8 en répétant les mêmes mots par la même phrase au verset 2 et 10 lorsqu'il est dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Est-ce que vous êtes levé ce matin avec cette idée-là dans la tête, ce cri de joie-là? « Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Moi, sincèrement, je ne me suis pas levé avec cette expression-là ce matin, quand je me suis levé de mon lit, je dis, « Oh Miguel, tu vas avoir 44 ans de ton dos, fais attention. » Fait que c'était pas comme « Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre », c'était comme « Seigneur, pourquoi tu m'as donné un corps aussi faible? » Le mot ici qui est utilisé pour « magnifique », c'est important de s'y intéresser. Le mot « magnifique » signifie simplement ce qui est majestueux et ce qui est excellent. Il ne s'agit pas ici simplement de quelque chose de beau ou de splendide. Le texte, dans le mot hébreu, on pourrait même dire que le mot ici pour magnifique, c'est ce qui est adorable. Ce qui n'a pas d'égal en termes de prestige, en termes de merveille et de puissance. C'est le nec plus ultra de ce qui existe sur la terre. Regardez par exemple ce que dit le verset 2 et le verset 3. Regardez comment on nous parle de la gloire de Dieu. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'avide de vengeance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, on voit que la gloire de Dieu se révèle autant dans les petites que dans les grandes choses. Dans tout ce qui existe, ce qui est chétif, ou monumental, Dieu s'exprime et il se manifeste de manière incroyable. Il a fondé sa gloire en tout. Jésus va même reprendre ce même verset lorsqu'il va aller au temple et que des enfants vont le louer. Des enfants vont le louer, puis là, il y a des gens, là, des scribes, des pharisiens, des hommes de loi qui vont dire, « Hey, écoute, Seigneur, tu ne peux pas permettre que des enfants te louent comme si tu étais Dieu. » Et puis, Jésus leur répond exactement cette phrase-là. Il dit, « Dieu peut utiliser les petites choses, chétifs, comme des enfants, très vulnérables, pour exprimer sa gloire. Donc, Jésus lui-même va spécifiquement adresser ce psaume-là à ses adversaires. Ce qu'on voit, c'est que la gloire de Dieu se révèle dans tout ce qui existe. Elle est incomparable et c'est pour ça que Dieu ne tolère aucun rival. Il ne tolère aucune comparaison parce que le mot « gloire », dit-il, bien, c'est comme si ça m'appartient. Puis, essayez pas de trouver une soupape ou un artifice pour essayer d'imiter ce que je suis. Rien n'a d'égal à qui je suis en être glorieux. Tout m'appartient. C'est une splendeur avec qui je ne partage avec personne. Et c'est ce que la réforme voulait mettre de l'avant. Que nous, êtres humains, nous ne pouvons rien faire pour être capables d'arriver à égalité ou même communiquer avec la gloire personnelle de Dieu sans que lui-même intervienne vers nous par la personne de son Fils. C'est ce que la réforme a voulu mettre de l'avant, que le salut de l'être humain repose entre les mains d'un Dieu qui est glorieux. Avez-vous déjà songé à ça? Que votre salut repose entre les mains souveraines d'un Dieu qui n'est jamais surpris par les circonstances de la vie, qui n'est jamais surpris par ce qui peut se passer, même si nous, on le lit plus souvent qu'autrement. Lui, c'est toute chose. Et notre salut repose entre les mains de ce Dieu glorieux-là. Vous savez, quand on parle de la gloire de Dieu, dans l'hébreu, on fait aussi référence à ce qui a du poids. Quelque chose de pesant dans la Bible, c'est quelque chose qui souvent qui est comparé à ce qui est glorieux. Posez-vous une question ce matin. C'est quoi l'élément dans votre vie ou les éléments qui ont du poids? Quelles sont les choses qui, par exemple, vous fascinent, vous passionnent, vous captivent? C'est quoi la chose qui a le plus de poids dans votre agenda, dans votre emploi du temps? Quelle est la chose qui vous fait réagir le plus si on vous l'enlèverait ou si on vous empêchait de l'obtenir? Quelle est la chose dans notre vie qui a vraiment du sens, qui a une signification, qui a du poids? Vous le savez, plusieurs d'entre vous, j'ai le privilège d'être le père de 4 enfants qui souvent me font beaucoup rire et d'autres fois pas mal moins. Et parmi ces petits-enfants-là, j'ai une petite fille de 17 mois, Julia. Et un de mes grands plaisirs le matin, je le partageais cette semaine à une sœur, un de mes grands plaisirs le matin, c'est qu'avant que tout le monde se lève, alors que tout le monde est au lit, puis que Julia vient de se lever, c'est de la prendre, puis de lui donner son premier boire. Son premier biberon. Puis là, je la cale au fond de mes bras. Peut-être que pour vous, ça ne vous dit rien, là, ce que je vous parle. Là. Vous allez connaître ça peut-être à un moment donné, un jour. Mais pour moi, c'est une bénédiction tellement incroyable. Puis juste le moment de calme puis de complicité que je peux avoir avec un jeune enfant de 17 mois, pour moi, là, c'est vraiment du bonbon. Il y a des journées, là, je pense que je passerais ma journée assise sur le divan avec mon enfant dans mes bras. C'est comme ça me rassasie. J'aime juste voir son petit nez troussé quand elle me sourit. Là, après, ça fait ça gêner. Puis c'est comme, il y a vraiment une complicité qui se développe. Mais il y a une chose qui arrive, par contre. C'est que, pour prendre une expression en bon québécois, puis pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, là, souvent, ces moments-là, souvent, sont pour moi, c'est des moments qui sont où Julia est adorable. Hein, vous avez déjà entendu ça souvent autour de nous. Hey, « Es-tu adorable, cet enfant-là? » Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu ne sais pas ce que tu viens de dire. Puis, essayez, si un de mes enfants se lève le matin, puis essaye d'aller prendre Julia avant que j'aille la prendre pour juste avoir ce moment-là, comment est-ce que vous pensez que mon cœur réagit? Qu'est-ce que vous pensez que je voudrais faire? À ta minute, non, tu ne touches pas à Julia, là. Non, ça, c'est mon moment à moi. C'est à moi, ce moment-là. Tu toucheras Julia plus tard dans la journée, là, tu pourras la prendre et donner son boire d'après-midi, mais là, le matin, là, ça, c'est à moi. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, mon cœur s'extasie devant une créature plutôt que devant son créateur. Je m'attache, je prends la décision de m'attacher à ce que Dieu a créé pour mon bien, au lieu de moi-même adorer le Créateur qui m'a permis d'avoir le privilège de savourer ce moment-là avec ma petite fille. Et je prends, d'une certaine manière, j'accorde de l'importance à quelque chose, oui, qui est merveilleux, mais qui est tellement loin du caractère magnifiquement exclusif de Dieu. Est-ce qu'il y a des endroits dans nos vies où la gloire de Dieu a été remplacée dans nos vies par quelque chose qu'il a créé? Afin que nous puissions en jouir, puis comprenez-moi bien, là, c'est bien de savourer les bonnes choses de la vie. Vendredi soir, j'étais avec des amis, puis moi, je suis un amateur de bière. Puis je savourais mon verre de bière, puis c'était la première fois que je l'essayais, celle-là était vraiment bonne. Je l'appréciais. Pour moi, c'est un délice, tu sais. Mais en même temps, est-ce que ce moment-là, pour moi, c'est quelque chose que je recherche absolument? Jusque où je suis prêt à aller pour savourer ce moment-là? À quoi mon cœur s'attache en faisant ça? Est-ce que pour moi, c'est un geste d'adoration de Dieu? Ou si cette ressource-là que je veux, puis que je n'ai pas, ou que j'ai, puis que je ne veux pas qu'on me l'enlève, ça me fait réagir de toutes sortes de manières? Qu'est-ce qui est glorieux dans ma vie? Qu'est-ce qui a du poids? Qu'est-ce qui a du sens? Et jusqu'à quel point je suis prêt à payer un prix pour obtenir cette chose-là ou ne pas la perdre? Est-ce que c'est tout simplement mon argent, mon travail, mes amis, ma santé, mes possessions? Est-ce que les ressources que Dieu nous donne, c'est des choses qui me permettent de mieux l'adorer ou c'est des choses dont parfois je peux me sentir esclave? Des choses que je suis prêt à tout faire afin de les préserver puis ne pas les perdre. Vous savez, Dieu ne nous accorde pas ses grâces pour que nous en devenions esclaves. Mais sa gloire est tellement grande qu'il veut que nous jouissions de ces choses-là qu'il nous prête, qu'il nous permet de savourer afin que sa gloire à lui soit manifestée. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu permets dans ma vie. Je ne veux pas me contenter juste de ce que tu me donnes. Je veux t'adorer comme tu es toi. Tu es magnifique sur toute la terre. Rien n'est comparable à la compagnie, à ta compagnie, à toi. Bien sûr qu'à la compagnie de ma petite fille de 17 mois que je prends dans mes bras, c'est super agréable. J'apprécie ces moments-là. Ça me donne de l'énergie. Ça me permet d'être connecté au bon endroit, c'est-à-dire les relations avec mon enfant. Mais c'est tellement pas comparable à la dimension magnifique d'avoir une complicité et une relation personnelle avec toi qui est magnifique sur toute la terre. Est-ce que je suis capable de tenir ce langage-là ce matin? Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce qui est intéressant dans le psaume 8, c'est que non seulement le texte nous présente Dieu comme un être extraordinaire et glorieux, mais ce qui est intéressant et ce qui est même, je dirais même sublime, c'est que le texte nous révèle la chose suivante. Dieu partage avec l'humanité la richesse de sa gloire. Dieu partage avec l'humanité la richesse de sa gloire. Dieu ne se contente pas juste d'une gloire qui émane de sa personne, puis bon, bien maintenant, prosternez-vous, là, vous avez juste ça à faire, là, maintenant, là, ce que je demande de vous, c'est simplement que vous courbiez l'échine et que vous m'adoriez simplement pour la gloire, l'émerveillement qui rayonne de moi. Vous, là, soyez à genoux et contemplez qui je suis. Et Dieu pourrait très bien se contenter de ça, il aurait raison parce qu'il le mérite, pour qui il est. Mais Dieu a tellement été au-delà de ça. Sa gloire est tellement grande qu'elle a un impact sur nos vies. Ce n'est pas une gloire qui est simplement neutre ou objective. Bien sûr qu'elle est objective, mais elle n'est pas que ça. Elle est également subjective, c'est-à-dire qu'elle dépeint sur nos vies. Elle a un impact. Regardez ce que nous dit, par exemple, le verset 4 à 6 de ce que crée la gloire de Dieu quand on la révèle, quand elle est révélée, quand on l'observe. Le texte nous dit au verset 3, « Quand je contemple le ciel, excusez-moi au verset 4, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Ce qu'il faut insister ici, c'est que lorsqu'on voit et qu'on est témoin de la gloire de Dieu, peu importe dans quoi que ce soit, eh bien une réponse honnête et digne de notre part, c'est un geste de humilité et de gratitude. Ce qui est clair ici pour l'auteur du chapitre 8, c'est que Dieu ne lui doit rien. Dieu ne doit rien aux êtres humains. Ça, c'est une conséquence de sa gloire. Il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous. Il ne nous doit rien. Pourtant, même s'il ne nous doit rien, non seulement il répond généreusement à tous nos besoins, mais il le fait dans un cadre étonnant. Et c'est ce qu'exprime ici le psaume 8. Non seulement, Dieu, quand je pense à toi, bien écoute, je peux juste me demander la question, c'est qui que je suis, moi, pour que tu oses penser à moi d'une manière aussi magnifique que de mettre dans un contexte où tu prends soin de moi, puis dans un cadre qui est tout à fait fabuleux, que ce soit dans la nature, dans les relations humaines. Bien sûr, ce n'est pas toujours fabuleux, mais il y en a des grands épisodes que oui. Vous rendez-vous compte que l'être humain est la seule créature qui a le potentiel et la capacité d'avoir assez de discernement pour se poser une telle question. Qui suis-je face à toi? Bien sûr, la création, les créatures de l'univers, les créatures de la terre sont bien sûr parfois merveilleuses, mais jamais elles n'ont cette capacité de se poser la question « Qui je suis moi? » Ils font leur petit train, ils vivent avec leur instinct. Seul l'être humain a cette capacité-là de non seulement dire à Dieu « Bien, je suis tellement rien à côté de toi », mais en plus, il a le privilège de pouvoir même discuter avec lui, de pouvoir converser avec lui. C'est vrai, c'est un honneur incroyable. Dieu, l'être humain est le seul être qui existe à pouvoir reconnaître que Dieu est ce qu'il est. Quand Dieu a créé l'univers, il ne l'a pas créé de manière insignifiante et vide. Il l'a créé dans un but, loger l'humanité, lui permettre de vivre et lui permettre de comprendre qui est son créateur, qui est dans un contexte absolument fabuleux lorsqu'on regarde la création, comme le fait le chapitre 8. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que le passage du psaume 8 ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas juste au fait de se dire « mais qui suis moi face à Dieu? » Mais en même temps, il révèle que Dieu nous fait, le texte nous fait également mention que Dieu a pris une décision avec sa gloire, c'est de couronner l'humanité de gloire et d'honneur. Même sans le mériter, il a décidé de partager avec nous la richesse de qui il est. Ici, il y a deux possibilités. Il y a des gens qui vont vous dire que dans le texte, on nous dit que nous avons été faits, les êtres humains, de peu inférieurs à Dieu. Il y a des gens qui vont comprendre ça comme étant, bien écoute, Miguel, dans le livre de la Genèse, on nous dit que Dieu a fait l'homme et la femme à son image. Ils portent quelque chose en eux que les autres créatures n'ont pas. Ils portent l'image de Dieu. Ils portent, d'une certaine manière, sa ressemblance. Et il semble ici que ça donne une préciosité, une valeur que les êtres humains ont et que les animaux ou les plantes ou l'univers n'ont pas. Il y a des gens qui comprennent ici, bien, c'est ça que ça veut dire, que tu as créé de peu inférieur à Dieu. Toutefois, il y a une autre possibilité, et j'aimerais attirer votre attention sur ceci, c'est que dans le mot, dans l'hébreu, le mot ici qui est utilisé pour Dieu, qui est Elohim, peut, dans certains contextes, être traduit comme un ange ou un être surnaturel. C'est même, la version Darby va même la traduire de cette manière-là. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Et il y a également le mot « peu ». Hein, le texte nous dit « tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ». Et le mot « peu » oui, bien sûr, avoir une valence de signification en termes de mesure, mais ça peut être également une mesure de temps. C'est-à-dire que tu l'as fait pour un peu de temps en dessous ou inférieur à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est la version que la Septante fait de ce verset-là. La version de la Septante, c'est une traduction grecque de l'Ancien Testament qui traduit le texte de ce verset-là de la manière suivante. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Donc ici, ça donne une autre couleur. Là. Ça, c'est une autre interprétation qu'on a du texte sur comment Dieu partage sa gloire avec nous, sa gloire incroyable qui émane partout. Eh bien, il dit qu'il a couronné l'homme ou l'humanité de gloire et d'honneur et que tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Bon, évidemment, il faut comprendre ici qu'on est dans les psaumes. c'est-à-dire bien avant la venue de Jésus, plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Et ce que va faire le Nouveau Testament, c'est éclairer ce passage-là afin d'insister sur la chose suivante. Et c'est mon troisième point ce matin, c'est qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que la gloire de Dieu peut vraiment enrichir nos vies. Vous voulez avoir accès à la gloire de Dieu? Vous voulez que ça devienne quelque chose qui vous enrichisse, qui vous fasse vivre en paix et qui vous donne une profondeur avec Dieu? Eh bien, vous n'avez pas le choix. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que cette gloire-là peut être vraiment savourable. Lorsqu'on parle ici dans le psaume 8 de domination, d'être qui est au-dessus de toute chose, c'est ça qu'on parle dans le psaume 8, de quelqu'un qui a de la domination sur tout. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre vie, vous dominez des choses, vous? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez le contrôle sur tout, que vous êtes au-dessus de toutes les circonstances puis que tout est à votre portée, tout est à votre contrôle? L'expérience de la vie nous dit que l'être humain, on ne se voit pas beaucoup dans ce contexte-là où on domine, puis on domine sur toute chose, puis on a le contrôle sur tout ce qui existe. Oui, Dieu, dans la Genèse, nous a dit qu'il nous a donné la domination sur sa création. Il nous en a donné l'intendance. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'être humain le pouvoir de dominer sur sa création. Toutefois, l'Épître de Jacques dans le Nouveau Testament nous dit que l'être humain peut apprivoiser bien des choses dans le monde troublé dans lequel on vit, mais il y a une chose qu'il n'arrivera jamais à apprivoiser. Qu'est-ce que l'homme n'arrivera jamais à apprivoiser? La langue, et d'une certaine manière, nous-mêmes. Parce que ce qui sort de notre langue vient de notre cœur. Le seul élément de la création que l'être humain a le plus de difficultés à apprivoiser, c'est lui-même. Donc, c'est quoi le problème? Comment Dieu peut me dire que je suis couronné de gloire et d'honneur alors que je vis dans un monde qui est complètement troublé, où des choses m'angoissent, des choses me stressent, des choses me préoccupent, je n'ai pas l'impression d'avoir accès à cette gloire-là? Bien, j'aimerais qu'on lise l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, qui va nous donner un bel éclairage là-dessus. Hébreux, chapitre 2. Le verset 5 à 9. Voici ce que nous dit le texte. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout encore lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Est-ce que ça vous éclaircit un peu le passage qu'on lit dans les psaumes? On voit, le psaume 8 est clairement un passage messianique qui nous parle de Jésus, de sa gloire et de son honneur, de la perfection de sa vie, bien des centaines d'années avant sa venue sur terre. Ce qu'on voit ici, c'est que la traduction d'Hébreu appuie ce que la Septante dit du psaume 8, c'est-à-dire que la manière qu'on l'a vu, que tu l'as créé de peu inférieur à Dieu, tu l'as créé de peu inférieur aux anges et tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, ce qu'on retrouve, c'est exactement le même texte dans Hébreu. Donc, on ne parle pas tant ici de l'image de Dieu qui est en nous et qui nous couronne de gloire et d'honneur, mais plutôt de celle de Jésus-Christ qui a été couronné de gloire et d'honneur à travers sa vie, à travers sa mort, à travers sa résurrection. Jésus est celui qui est ici couronné de gloire et d'honneur, mais sans que son Église en soit exclue. On nous parle ici d'un monde qui est à venir. Jésus est notre prédécesseur. Dieu a tout mis sous ses pieds pour qu'un jour nous puissions parfaitement en profiter. Lorsqu'il va revenir, lorsque le nouveau monde que Dieu est en train de créer, qui est en train de façonner, qui va venir un jour lors du retour de Christ, qui va exister, qu'on va vivre ce monde-là qui n'est plus troublé, mais complètement exempt de péché, et que tout va être parfaitement uni à la personne de Dieu, on va pouvoir le savourer un jour. Est-ce que vous priez parfois pour ce moment où Dieu va manifester sa gloire de manière parfaite? En attendant, on vit d'espoir, on vit avec notre foi. Jésus nous demande de vivre par la foi, non par la vue. Donc, si je demande à Dieu d'exprimer sa gloire tout de suite, bien, je marche par la vue, je ne marche pas par la foi. Mais en même temps, je peux lui demander parce qu'elle n'est pas encore là, cette gloire-là. Donc, je lui demande, je lui requiers, Seigneur, viens transformer le monde troublé dans lequel nous vivons par la gloire dont toi-même es l'être absolu, par définition. Ton nom est magnifique sur toute la terre. À la croix, Jésus-Christ a été couronné de gloire et d'honneur. Dieu a fait de lui l'artisan de notre salut. Et la gloire qui émane de la personne de Jésus, son désir de Dieu, c'est que cette gloire-là, nous puissions la vivre aujourd'hui en espérance, en regardant constamment vers celui qui nous précède, Jésus-Christ, pour le monde qui est à venir. Donc, de regarder vers le passé, vers Jésus-Christ, pour nous propulser vers l'avenir. Combien de gens aujourd'hui dans notre société n'ont pas confiance, ils ne voient pas de manière positive les années à venir pour nos sociétés, qui ont un regard pessimiste sur les choses, qui ne voient pas grand-chose de bien à penser par rapport à ce qui s'en vient. Miguel, j'ai peur pour mes enfants. Dans quel monde ils vont vivre? Il n'y a presque plus d'emploi. L'école, c'est de plus en plus difficile d'y entrer. Notamment à l'université, même quand on y arrive, il n'y a pas d'emploi comme on espérait, comme il y aurait pu en avoir avant. On vit dans un monde qui est vraiment de plus en plus instable. Comment je peux avoir confiance dans l'avenir quand c'est instable comme ça? Jésus-Christ a connu ce monde instable en venant sur la terre. Cet être de gloire peut maintenant nous en parler parce que Dieu lui a soumis toutes choses. Il est là pour nous réconforter, nous faire voir ce monde glorieux qu'on peut vivre aujourd'hui en lui faisant confiance. Regardez par exemple ce que nous dit 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit ceci au verset 24. C'est l'apôtre Paul qui parle lorsque Christ va revenir dans sa gloire. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait tout mis ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort de Dieu. La mort, excusez-moi. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Ce qu'on voit ici, c'est clairement que le psaume 8, qui est cité ici, fait éclater la mort et la résurrection de Jésus comme étant la gloire de Jésus-Christ. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu nous remplit de sa gloire uniquement par la personne de Jésus-Christ. C'est de lui que ça vient. C'est lui qui en est le destinataire et c'est lui qui, au bout du compte, va la faire parachever de manière parfaite lorsqu'il va revenir. Lorsque Dieu nous a créés avec son image, ça n'a pas pris longtemps que cette image-là a été brisée. Comme un miroir qu'on fracasse sur le sol, la gloire de Dieu, la manière qu'il nous avait créés à son image, a complètement été pulvérisée. Et nous avions besoin d'un rédempteur qui change le cours des choses. C'est ce que Jésus a fait. En lui, la gloire de Dieu en Jésus-Christ s'est approchée de nous et on peut maintenant la contempler. On peut l'aimer sans être consumé par elle. Qu'est-il arrivé à Ésaïe lorsqu'il a vu Dieu dans sa gloire? Il dit, arrière, il dit, je suis impur pour voir tout ça. Je ne suis pas digne de voir tout ça. Avant Jésus-Christ, la gloire de Dieu était quelque chose qui nous bouleversait, mais vraiment de manière assez catastrophique. On avait vraiment un sentiment d'apaisement et de petitesse incroyable. On l'a encore. Mais en Jésus-Christ, cette gloire-là, on peut maintenant y avoir accès sans être consumé par elle, parce que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour que nous ayons accès à sa gloire, ce qui ne pouvait pas être possible autrement. Et c'est ce que le message de la Réforme a voulu souligner. La personne glorieuse de Jésus-Christ uniquement. Soli Deo Gloria. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, voici ce que Jésus, comment Jésus prie son Père qui est dans les cieux. Il lui dit, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Soli Deo Gloria. À Dieu soit la gloire dans la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Vous savez, Dieu n'existe pas pour nous. Dieu existe pour lui-même. Et c'est entièrement suffisant. C'est ce que Martin Luther, Jean Calvin ont toujours voulu souligner. Dieu existe pour manifester la grandeur de sa personne. Évidemment, ça ricoche vers nous de manière incroyable parce qu'on bénéficie de la croix que Jésus a portée, on bénéficie de sa résurrection par la foi. Mais est-ce que dans ma tête, et je vous pose cette question-là ce matin, est-ce que dans notre tête, l'adoration qu'on a envers la gloire de Dieu, est-ce que c'est pour la manière dont il me bénit? Où j'adore Dieu simplement de manière autonome pour ce qu'il est. Quand j'adore Dieu, comment est-ce que je le fais? Simplement en soulignant, voici, merci de m'avoir donné ceci ou cela et de m'avoir épargné ceci et cela dans ma vie. Parce que si c'est ça, Dieu à ce moment-là n'est juste quelqu'un d'utile dans ma vie. C'est juste quelqu'un qui me bénit. Est-ce que vous voyez Dieu comme ça dans votre vie? Simplement quelqu'un Dieu qui peut vous bénir. Il mérite tellement mieux. Il est digne d'une chose tellement plus grande. Je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer tranquillement. Mes amis, il faut se poser absolument cette question. Dans mon adoration de la gloire de Dieu, c'est qui est-ce que j'adore vraiment? Est-ce que c'est sa création, des ressources qu'il m'a données? Ma conjointe, mes enfants, mon emploi, ma sécurité. Est-ce que je m'adore moi-même? Est-ce que j'adore ce que j'apprécie moi-même, je fais? Puis s'il arrive quelque chose, un chamboulement qui fait que je ne peux plus en profiter, bien là, la gloire de Dieu n'est plus là. Il n'est plus digne d'adoration parce qu'il ne me donne plus la ressource que j'adorais. Il faut sincèrement se poser cette question-là, mes amis. Qu'est-ce que j'adore dans ma vie? Et suis-tu prêt ce matin à dire simplement ceci, même dans le trouble, même dans l'anxiété, même dans la maladie, même dans le besoin. Seigneur éternel, ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce que vous êtes capable de dire ça quand vous voyez un tremblement de terre où il y a des milliers de personnes qui peuvent périr? Est-ce que vous êtes capable de dire ça lorsque vous voyez un enfant malade? Est-ce que vous êtes capable de dire ça lorsque vous voyez que votre conjoint ou que votre voisin vient de perdre son emploi et que ça va être difficile d'en retrouver un autre? Seigneur éternel, ton nom est magnifique sur toute la terre. Bien sûr que c'est des choses qu'on observe, mais c'est également quelque chose qu'on vit par la foi. C'est ce que je nous invite à faire dans la prière. Oui, remercier Dieu pour la gloire qu'il manifeste à travers les bénédictions qu'il nous donne, mais de voir au-delà de ça, de voir sa gloire comme quelque chose qui nous pousse toujours plus loin dans notre vie, pour mieux savourer qui il est en tant qu'être glorieux. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, tu nous dis dans ta parole, qui d'entre nous a donné le premier pour pouvoir être payé en retour? C'est toi, Seigneur, qui es l'auteur de toutes choses. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. La gloire seule t'appartient dans tous les siècles. vient de voir ce matin à quel point tu es un être fabuleux. Un être qui se tourne vers nous puis qui n'avait pas nécessairement raison de le faire, dans le sens que oui, ton amour est glorieux, mais tu aurais très bien pu, Seigneur, te passer de nous. Et pourtant, tu as décidé de partager avec nous ce que tu tenais comme étant le plus précieux pour toi, la vie de ton Fils. Tu as partagé ta gloire avec nous afin qu'elle puisse nous enrichir. Qu'elle puisse, Seigneur, nous donner de la profondeur dans notre relation avec toi. Dans tout ce qu'on a pu vivre ici-bas sur la terre, Seigneur, c'est toi que nous voulons louer. C'est vers toi que nous voulons plier le genou et dire « Soli Deo Gloria » comme l'a dit Martin Luther. À toi seul, la gloire. Que nos âmes puissent être élevées devant toi et simplement reconnaître la majesté de ta grandeur dans nos vies, autant dans les détails que dans les grandes choses. Merci, Seigneur, pour ta gloire, la gloire que tu es, toi, qui nous propulse vers l'avenir, et apprends-nous à vivre cette gloire par la foi, te voir comme le maître majestueux que tu es. Au nom de ton Fils Jésus,